Je vous invite à ouvrir votre Bible dans un psaume que vous connaissez par cœur, normalement, le psaume 23. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut encore apprendre dans ce psaume? Vous allez voir, nous allons en fait regarder ce psaume un peu comme un berger, un vrai berger. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc le psaume 23, on va lire en entier, même si on va étudier les trois premiers versets seulement aujourd'hui, on va le lire. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » L'auteur, vous savez que c'est David. David était le deuxième roi d'Israël, mais avant d'être roi, il était berger, un humble berger. Le psaume est en fait coupé, au regard d'un berger, en deux saisons, on pourrait dire, et on va voir la première aujourd'hui. Il y a cette première saison qui est celle de l'hiver, du printemps, où c'est cette période où le berger est avec ses brebis, ou prend soin de ses brebis. Et on voit le « mon », le « jon », le « je », les pronoms personnels qui sont employés. Puis on verra la semaine prochaine la deuxième période qui est l'été et l'automne, qui est un peu cette période de transhumance où les brebis vont partir dans les montagnes. Et c'est un moment de grande intimité et ça va être face aux dangers, face aux difficultés. Et c'est marrant que l'auteur emploie « tu » à ce moment-là. Et le « tu » donne vraiment toute l'intimité avec le berger, enfin l'intimité entre les brebis et le berger. Aujourd'hui, on va parler de cette période de soins. Vous aimez bien être soigné par le Seigneur ? Un peu ? Ah, vous l'êtes plus que vous le croyez. Et j'aimerais qu'on marche avec ce berger aujourd'hui. Première chose qu'on peut apprendre dans ce psaume, c'est que mon berger satisfait à tous mes besoins. Je vais chaque fois lire peut-être la partie que je vais étudier en littéral. « L'Éternel faisant paître moi, je ne manquerai de rien. » Ça fait petit français, je suis désolé, mais c'est un peu ce qui est marqué là. « L'Éternel faisant paître moi, je ne manquerai de rien. » L'Éternel est notre grand berger. À nous d'abord de le réaliser, qu'il est notre berger. Et ce berger, c'est qui ? C'est pas un simple monsieur avec un bâton qui se balade dans les montagnes. On a vu une belle description de tout à l'heure dans Samuel de qui est notre berger. C'est l'Éternel, c'est le Tout-Puissant, c'est celui qui est majestueux. Quel sacré berger nous avons là. Ça donne la dimension de ce berger, mais aussi la dimension de ses capacités à paître son troupeau, à me paître moi et à me donner tous les soins dont j'ai besoin. Parfois on râle en disant « Seigneur, tu ne t'occupes pas de moi ». On est en train de mentir, tout simplement. C'est nous qui ne considérons pas les soins de Dieu. Et des fois, on fait Dieu menteur, mais c'est jamais lui qui est menteur, c'est nous. Ce berger était humble, on l'a dit autrefois, c'était pas un boulot que tout le monde voulait faire forcément, même encore aujourd'hui, mais cette humilité, il y avait aussi du caractère dedans. Parce que être berger tout seul dans les montagnes, et occupez-vous de votre troupeau, il faut avoir un sacré caractère aussi. C'est pas évident, il y a le loup qui arrive, vous faites quoi ? Vous barrez, généralement. Ben, le berger, lui, allait lutter pour protéger ses brebis. Ça nous rappelle tout simplement Jésus-Christ, incarné, qui est notre bon berger aujourd'hui, qui a été humble sur la terre et qui a accepté absolument tout, mais qui a combattu et qui a eu la victoire au bout pour que nous puissions être un jour sauvés. David dit « L'Éternel est celui qui me fait paître, c'est lui qui s'occupe de moi. S'il me fait paître, ça veut dire qu'il est mon chef, celui qui dirige le troupeau tout simplement. » Il dirige ses brebis, il les dirige dans ses chemins, parce qu'à un moment, les brebis n'ont pas un syndicat en disant « Écoutez, on a envie de passer à droite plutôt qu'à gauche. » C'est le berger qui dit « On va là, on va là, on va là. » Est-ce que c'est vraiment notre chef à nous ? Quand Jésus dit « On va là », est-ce qu'on va là ? Ou justement, on va voir le syndicat en disant « Écoutez, il nous fatigue celui-là. » Il nous emmène toujours dans des endroits qui ne sont pas toujours drôles, pas faciles d'accès des fois, il y a des épreuves. Nous, on aime bien les champs verts où il y a de l'herbe, où on est toujours bien. Mais des fois, le chef, le berger, dit « Non, la route, elle est là, elle est tout simplement là. Est-ce que Jésus est vraiment mon berger ? Est-ce que je suis prêt à le suivre là où il veut me conduire ? Est-ce que je suis aujourd'hui vraiment dans ses voies ? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que je vais dans sa direction ? Déjà, est-ce que je la connais ? Est-ce que je vais dans sa direction ou est-ce que je vais vers la direction que moi, je crois être bonne pour moi, en disant que c'est Dieu ? On est tordu des fois. On sait créer des chemins qui ne sont pas ceux de Dieu, tout en disant qu'ils sont ceux de Dieu. Mais le bon berger, lui, voudrait qu'on le suive tout simplement derrière, dans ses voies, qu'elles soient difficiles, tempétueuses parfois, ou tout simplement pleines de joie. Il veut simplement être mon berger. Donc l'Éternel est-il vraiment mon berger? C'est la question qu'on peut se poser. Parce que ce « mon », pour moi, ça évoque vraiment une relation d'intimité avec mon berger. C'est mon berger à moi, c'est mon Dieu à moi. Mais pas seulement. Si c'est mon Dieu à moi, ça veut dire que j'ai une relation avec lui, j'ai un dialogue, j'ai une intimité. Il y a aussi une espèce de tendresse de la part du berger pour moi. Il m'aime, on l'a vu tout à l'heure, nous faisait remarquer Claude. Mais il m'aime pas comme un roi. Oui, Dieu est le roi de ce monde, mais il veut cette relation d'intimité avec chacun d'entre nous, malgré la description qu'on a vue tout à l'heure de lui. C'est extraordinaire quand on y pense. Lui est toujours prêt à avoir cette relation avec moi. C'est moi qui ai souvent du mal à avoir une relation avec lui. Mais si je dis que l'Éternel est mon berger, ça veut dire que j'ai cette relation aussi avec lui. Sinon, dites, l'Éternel est un berger. Pas la même chose. Un berger, mon berger qui me conduit aujourd'hui, tous les jours, qui conduisait David à l'époque, ça veut dire qu'il conduit ma personne, moi, mes projets, parce que mon berger a le droit de voir mes projets. Il conduit mes désirs, mon utilisation de l'argent, la télé, tout ce que je peux faire dans ma vie. Si c'est vraiment mon berger, je suis en train de le suivre et je sais ce qu'il veut pour moi, tout simplement. On a tous besoin d'un berger, on a tous besoin d'une direction dans notre vie. C'est tellement difficile la vie des fois, mais est-ce qu'on prend le temps de connaître vraiment notre berger? On le connaît, hein, on connaît le psaume 23 par cœur, mais est-ce qu'on le vit vraiment? Ça c'est autre chose. Il y a la connaissance intellectuelle, mais vivre et vraiment suivre mon berger, ça c'est autre chose. Quand le berger, on verra la semaine prochaine, va nous emmener dans des vallées d'ombre de la mort, ça vous tente? Vous aimez ça? Les difficultés? La mort peut-être même? Et pourtant, il est toujours là, mon berger. Il est devant moi et c'est lui qui me fait traverser tout cela. Il faut prendre du temps à connaître ce berger. Lui, il me connaît par cœur, donc c'est encore mieux de savoir que moi, je vais prendre du temps à connaître celui qui me connaît encore plus que moi-même. Parce qu'il me connaît plus que moi-même. Parce que vous ne savez pas ce qui va passer demain. Lui, sait déjà ce que vous allez dire, ce que vous allez faire. Prendre du temps pour apprendre à le connaître, et c'est cette période justement où, dans cette relation avec le berger qui est en train d'apporter ses soins, ben justement, c'est l'occasion de mieux connaître son berger. On aime bien accepter les soins de Dieu, n'est-ce pas? C'est bon. Par contre, on aime moins rendre, d'une certaine manière, par le service, par la fidélité, par l'obéissance. Vous imaginez si dans le troupeau, toutes les brebis ressemblaient à l'église des fois, vraiment. Toutes les brebis iraient n'importe où, le berger deviendra complètement fou. Ben oui, mais les brebis, on verra qu'elles ne sont pas toujours très obéissantes, mais elles essaient de suivre malgré tout le berger. Heureusement qu'il y a un chien, on en reparlera, qui vient rassembler aussi des fois ces brebis. Mais l'Éternel est-il vraiment mon berger? Ça, c'est la question que chacun devrait se poser dans notre cœur ce matin. On voit les soins du berger. Hein. D'abord, il y avait des mauvais bergers et apportaient de mauvais soins. Et quelqu'un écrivait en parlant de cela, « Le berger égoïste et sans cœur semblait complètement insensible et indifférent à tant de détresse par rapport aux brebis. Cela lui était tout simplement égal. Ses brebis pouvaient désirer une herbe fraîche, de l'eau claire, de l'ombre, un abri, une protection contre la tempête. Elles pouvaient désirer être guéries de leurs blessures, de leurs maladies, débarrassées de leurs souillures ou de leurs parasites. Il ignorait leurs besoins. Il ne s'en souciait pas. Pourquoi son Quoi s'en serait-il inquiété? Elles n'étaient que des brebis destinées à l'abattoir. Finalement, pourquoi s'en occuper? Puis de toute façon, à la fin, ils vont être... Ça, c'est le mauvais berger. Il ne se préoccupe pas de ses brebis. Et il y a un très mauvais berger aujourd'hui qui s'appelle Satan, tout simplement, et qui est le berger de beaucoup de gens, hélas. Ils ne le savent pas, mais il est là, il est prince de ce monde. Et c'est un berger qui amène les gens, tout simplement, en enfer, à l'abattoir, on pourrait dire. Il offre des bons pâturages. Regardez, c'est beau de me suivre. Hein. Vous aurez tout dans votre vie, vous serez heureux. Laissez Dieu, on s'en fout de ça. Regardez mes beaux pâturages à moi. Et à la fin, finalement, il va tuer tout simplement ses brebis. Et il les enverra avec lui-même en enfer. Hein. Ça paraît si beau des fois ce monde, et finalement, au bout, on s'est fait tromper. C'est la chair, c'est aussi les désirs hein, de suivre ce mauvais berger, parce qu'elle est là. Et le chrétien, lui, aime souvent aussi la chair, et des fois se laisse hypnotiser par n'importe quoi, et finalement, ben, il suit le mauvais berger, et se fait un petit peu avoir au bout. Ça, c'est le mauvais berger. Mais il y a le bon berger. Et Jésus est le bon berger. Parce que le bon berger, il connaît nos besoins. Il connaît mes besoins physiques, Il connaît mes besoins spirituels, comme j'ai dit tout à l'heure, il sait absolument tout de moi, même peut-être au-delà, hein, dans notre conscient, subconscient et tout ça, il sait absolument tout ce dont j'ai besoin. Ah, c'est quand même chouette, quelqu'un qui me connaît quand même. On attend que ça tout le temps au travers des amis ou de l'époux, je ne sais pas, mais quelqu'un me connaît absolument parfaitement. Et David dit, je ne manquerai de rien. C'est génial. En fait, il vous manque rien. Il me manque rien. Et tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? Il me manque tout. Voilà. Je ne manquerai de rien. Ça ne signifie pas posséder tout, parce qu'on connaît David, on l'avait vu tout à l'heure qu'il était en fuite, et il a souffert, il était sur la guerre, il ne possédait pas tout. Mais il pouvait dire qu'en Dieu, il avait absolument tout. Il ne manquait de rien, c'est la satisfaction de la sollicitude du bon berger. En d'autres termes, on pourrait dire, ne manquer de rien, c'est simplement accepter ce que Dieu m'offre, être content de ce qu'il m'offre aujourd'hui, en plus, en moins, plus, ou moins, ça dépend des journées et des temps, mais je suis satisfait de ce que Dieu me donne aujourd'hui, on verra demain. Et quand on est comme cela, on dit, je ne manquerai de rien. Et finalement, on est heureux dans notre tête, puisque finalement, j'ai tout. Hein. Par rapport à d'autres, déjà en France, on a énormément de choses, mais je ne manquerai absolument de rien. Et si peut-être, parfois, Dieu permet qu'on passe par la disette, parce que ça arrive aussi, je ne manquerai de rien. Il me permet d'être des fois dans l'abondance, il me permettra aussi des fois dans la disette, parce qu'il veut m'apprendre tout simplement des choses. Mon berger est celui qui me fait paître, donc, et qui me satisfait et me suffit. Ça, c'est mon bon berger à moi, et j'espère que c'est le vôtre aussi. David parle d'une deuxième chose, c'est que mon berger offre repos et direction. Je reprends la traduction littérale. Il m'a fait coucher dans des pâturages aux herbes tendres. Il me conduit vers toutes les eaux et les lieux de repos. Voilà le projet de mon berger pour moi. Il veut m'offrir du repos, à ses brebis. Et le bon berger constate en fait que nous avons des fois besoin de repos. Hein. Après la transhumance, parce que quand on revient là, à cette période-là, c'est qu'ils ont passé un moment dans les montagnes, hein, et donc ils sont bien fatigués, les brebis, elles rentrent, elles se font soigner, se reposent. Et donc le berger sait qu'elles ont besoin des fois de se reposer. Et Jésus lui-même nous invite plusieurs fois à nous reposer. C'est chouette quand même d'avoir quelqu'un qui nous invite à nous reposer quand même. Hein. Ça n'arrive pas chez notre patron, ça, généralement. Hein. Dans Marc 6, 31, il dit, Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et venants. » Matthieu 11, 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » On a la chance en tant que brebis, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir se reposer, et d'être même invité parfois à se reposer. Alors se reposer, c'est pas faire la sieste, on est bien d'accord, même si ça fait un peu partie du repos des fois, c'est pas de ronfler allègrement, c'est simplement cette communion avec Dieu, rétablir cette communion avec Dieu dans le dialogue, dans la prière, dans les lectures de sa parole. C'est ça, se reposer en Dieu. Vous pouvez faire la plus belle des siestes du monde et repartir avec le cœur triste, qui n'est pas au clair avec Dieu, ça ne vous a pas apporté du repos. Mais si vous faites et une bonne sieste et vous prenez du temps avec Dieu, alors là, vous repartez vraiment avec beaucoup de joie et de force. Donc c'est cette communion que Dieu veut que l'on ait avec lui, c'est ce repos qu'il veut, et ça se perd tellement vite, hein. Ça a besoin d'être entretenu, comme le berger prend soin de ses brebis, mais si la brebis ne veut pas des soins, ben, ne veut pas de son repos, ben, à un moment forcément, elle se perd. C'est ça les vers pâturages. Hein. Les vers pâturages, c'est l'amour de Dieu, c'est la tendresse de Dieu pour chacun d'entre nous. À nous évidemment d'y goûter. Hein. Vous savez, vous pouvez avoir un beau prêt tout vert devant vous, mais si vous n'allez pas brouter, ben, ne broutez pas. Hein. Mais si vous n'y allez pas, ça ne sert à rien d'avoir un beau champ vert devant vous. Il faut profiter de ce que le Seigneur nous donne, de ce repos et de cette communion qu'il veut avec chacun d'entre nous. Mais il y a quatre raisons pour que les vraies brebis, par exemple, ne profitent pas de ce repos, et on va voir un peu le rapport avec nous. D'abord, il faut savoir qu'il y a des brebis qui sont timides, à ce qui paraît. Vous voyez, il n'y a pas que les hommes. Hein. Et un berger disait, il faut parfois les libérer de toutes leurs craintes, hein, parce que comme elles sont timides, là, alors elles n'osent pas profiter de ce que le berger veut donner. Ça nous rappelle parfois nos anxiétés, peut-être la peur de l'inconnu, hein, en tant qu'enfant de Dieu. Et des fois, on a une espèce de timidité qui nous bloque dans la relation avec Dieu. Deuxième chose, c'est une deuxième raison, c'est les différends que les brebis avaient entre elles. Les brebis, ça se dispute. Bizarre. Quelqu'un écrivait « J'observais des centaines de fois le manège d'une vieille brebis marchant vers une plus jeune qui broutait paisiblement et se reposait dans un coin ombragé. Elle arquait le cou, secouait la tête, dilatait ses yeux et s'approchait de l'innocente d'un air peu engageant. Tout en elle disait clairement « Va-t'en ». Hors de mon chemin, fais-moi place. Et si la jeune brebis ne prenait pas immédiatement une position de défense, elle se voyait frappée de la tête sans merci. Si elle acceptait le combat et tentait de résister, quelques rudes poussées la faisaient bien vite s'enfuir vers quelques refuges. Ces conflits et jalousies continuelles dans le troupeau sont à son détriment. Les brebis deviennent nerveuses, tendues, mécontentes et sans repos. Elles maigrissent et deviennent irritables. Les brebis les moins agressives étaient aussi souvent les plus satisfaites et les plus paisibles. Ainsi, leur position en queue de troupeau semblait finalement leur être un avantage quelque part. Ça rappelle quelque chose tout ça, hein ? Ces brebis qui se disputent, qui sont jamais contents de l'autre, etc. Hein ? On s'est jamais donné des petits coups de tête parce que bah, l'autre il m'énerve, parce qu'il n'est pas comme je voudrais, parce qu'il y a des conflits aussi parfois dans le troupeau qui est l'église. Ou la compétition. Moi, j'ai envie d'être à la place du pasteur. Moi, je n'aime pas celui-là. Il y a des conflits, la jalousie. C'est ce qui se passe des fois aussi dans notre troupeau, à nous. Et forcément, ça ne nous donne pas du repos. Si on veut vraiment se reposer, demander pardon, aller voir la personne qui vous embête, régler les problèmes, et vous vous reposerez. Une troisième raison qui embête le repos, c'est les mouches. Hein. Je voulais dire quelque chose, mais ça serait trop long. Mais il y avait des mouches. Hein. Déjà, moi, j'ai une mouche qui vient tous les matins sur mon ordinateur, me saoule. Ah, c'est agaçant, mais bon, pour les mouches à l'époque, ça irritait en fait les brebis et ça leur faisait du mal. Ça allait même très loin des fois et c'est pour ça que c'était vraiment gênant pour elles. Mais ces mouches, pour nous, ça nous rappelle nos frustrations de la vie chrétienne, tout simplement. Hein. On est souvent frustré d'être chrétien ou d'avoir pas toujours ce qu'on veut dans notre vie chrétienne, mais c'est peut-être parce qu'on se confie pas, tout simplement, en Jésus-Christ. Et quand je laisse ces mouches, on va dire, m'embêter toute la journée, ben finalement, je profite pas pleinement du repos que Dieu veut me donner. Et puis une quatrième raison, ne pas être rassasié. Il y a des brebis qui ne sont jamais contentes, peut-être parce qu'elles manquent d'espérance, alors que Christ est notre espérance. On n'est jamais satisfait de ce que l'on a, de ce qu'on vit, etc. On veut toujours autre chose. Évidemment, le monde nous pousse aussi à cela, hein, mais on devrait être tellement content de là où nous sommes aujourd'hui, avec le Seigneur, avec ce que j'ai, mais aussi avec ce que j'ai à l'intérieur, avec le Seigneur. Mais du propriétaire hein, va dépendre le repos. Si on suit le mauvais berger, forcément, ou mon berger fabriqué, on va dire, on croit être Dieu, mais forcément le repos ne sera pas celui qu'il veut m'apporter. Mais le vrai berger lui offre un vrai repos, un repos absolument parfait. Et ce repos, c'est même quand tout va pas bien dans notre vie. Le berger veut nous diriger, nous dit David. Il dit ça certainement parce qu'en tant que berger, il savait que les brebis, ce n'est pas des animaux qui disent « Oui, oui, berger, nous te suivons ». Non, les brebis, ça aime naturellement divaguer. Hein, ça aime bien aller là, ça « Ah, c'est vert là-bas, boum, j'y vais ». Même s'il y a un ravin, ce n'est pas grave, mais j'y vais quand même parce que c'est vert, c'est beau. Et on est un peu comme ça. Dans Ésaïe 53, 6, il est dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous ». Avant d'être chrétien, nous étions ces brebis complètement égarées. On faisait ce que nous voulions. Après être devenus chrétiens, nous sommes des brebis bien souvent égarées et nous faisons ce que nous voulons. Peut-être un peu moins, en tout cas. Enfin, je l'espère. Mais on est toujours cette brebis qui aime bien se laisser aller à droite et à gauche, même en connaissant bien le berger. Parce que même si je connais Jésus-Christ, même si je connais Dieu parfaitement, ben, de temps en temps, j'aime bien avoir mon indépendance. Et je suis une brebis qui dit, moi, je ne te suis pas aujourd'hui berger. Là-bas, c'est beaucoup plus vert ce que tu veux me donner. Donc moi, j'y vais. Bien, c'est souvent pas en notre faveur, quelque part. Mais ces brebis dans l'église, bien souvent, décident elles-mêmes. Par exemple, elles décident quand elles viennent à l'église. Elles font ce qu'elles ont envie. Elles décident si elles font leur culte personnel aujourd'hui. C'est moi qui décide, pas toi. Elles décident si elles veulent servir le Seigneur. Elles décident leur projet. Elles décident un tas de choses dans leur vie. C'est moi qui décide. Toi, tu ne sais pas, bon berger. Moi, je sais. Pourtant, le bon berger nous a donné le chemin, on va dire. C'est lui qui devrait diriger ma vie. Et si on le vit, on se rend compte que ce qu'il va m'offrir est bien meilleur que ma paresse, mon envie de faire autre chose, peut-être mes convoitises aussi quelque part. Parce que si on obéit au Seigneur, qu'on fait vraiment ce qu'il nous demande, on va bien. On va très bien. Malgré les difficultés de la vie, mais on va toujours mieux, en tout cas. C'est lui, mon berger, c'est lui qui veut me diriger. Mais parfois, pour diriger ses brebis, ben, le berger, le vrai berger, mais on va bien comprendre pour nous, va devoir sévir. Hein. Un exemple, séjournant en Syrie, un archéologue s'étant lié d'amitié avec un berger, c'était lié avec un berger, un jour il le vit apportant de la nourriture à une brebis qui avait une patte cassée. Il demanda comment s'est-elle fait cela ? Est-elle tombée dans un ravin ou est-ce en fuyant une bête fauve ? Ni l'un ni l'autre, répliqua le berger, c'est moi qui lui ai cassé la patte. Ah. Vous-même, s'exclama l'archéologue stupéfait, pourquoi donc ? Souriant de l'étonnement de son interlocuteur, le berger expliqua, c'est une brebis têtue. Elle ne voulait pas que je l'approche, ni rester avec le troupeau qu'elle risquait d'entraîner à sa suite. Elle ne pouvait que s'égarer, glisser, tomber dans un ravin ou se faire tout simplement dévorer et amener les autres avec elle. Vous voyez, maintenant, elle se laisse approcher, me permet de la soigner. Elle apprend à me reconnaître comme son berger et avoir confiance en moi. Cela valait bien la peine de lui casser une patte qui, au reste, sera vite entièrement guérie. Quelques jours plus tard, l'archéologue rencontra de nouveau le berger avec son troupeau. La brebis, la patte encore faible, suivait le berger en boitillant. Elle était juste derrière lui et semblait ne plus vouloir s'en détacher. Ça nous rappelle certaines choses dans notre vie, hein ? Péché, orgueil, toutes ces choses que nous avons des fois et qu'il faut casser des fois dans notre vie. Et Dieu se permettra de nous casser la jambe s'il faut. Hein ? Moi, je ne le ferai pas en tant que berger, on va dire, mais je pourrais aussi dire des choses. Mais Dieu sait des fois nous arrêter net dans ce que nous faisons, même si ça va nous faire souffrir mal, mais c'est parce qu'il veut notre bien. Parce qu'il nous aime, tout simplement. Et comme cette brebis, c'est quand on a la patte cassée, bien souvent, qu'on va commencer à suivre fidèlement le Seigneur. Et croyez-moi qu'on devra avoir souvent la patte cassée, parce qu'on s'égare bien souvent. Le berger, pour diriger, doit aussi des fois attendre. Qu'est-ce qu'il est patient ? Toujours un berger qui disait, « Il me paraît que dans la montagne de la Haute-Écosse, les brebis s'engagent souvent dans des endroits d'où elles sont incapables de revenir. » Elles ont été attirées par des herbes dont elles sont particulièrement gourmandes. Entraînées par leur appétit, elles ont sauté facilement de roche en roche. Quand elles veulent redescendre, elles ne savent plus comment faire. Elles sont subitement prises de panique. C'est beau l'herbe là-bas, hein ? Mais après, il faut revenir. Alors, elles se mettent à bêler de détresse, mais le berger attend quelquefois plusieurs jours jusqu'à ce qu'il ait enfin achevé de brouter toute l'herbe qui est à leur portée. Quand il comprend à leur cri qu'elles sont affaiblies au point de ne plus pouvoir se tenir debout, il escalade jusqu'à l'endroit où se trouvent les brebis, qui se laissent facilement saisir. Pourquoi agit-il ainsi ? Pourquoi ce jour d'attente ? Ben, les brebis sont tellement agitées et affolées qu'elles risqueraient, en l'entendant venir, de se précipiter elles-mêmes dans le vide et de se tuer tout simplement. Parfois, le Seigneur attend, très longtemps, parce que s'il venait directement, ben, on refuserait de bloc. Hein, tout simplement, mais des fois il prend le temps et il a toute la patience pour venir un jour, quand on sera prêt, pour venir nous donner une petite tapote, hein, ou simplement nous relever, nous reprendre et à nouveau marcher avec lui. Ce qu'il attend simplement, c'est que l'on soit réceptif, parce que des fois on n'est pas réceptif, et des fois on a envie de changer l'autre, hein, mais des fois il faut du temps, parce qu'il n'est pas à ce moment-là réceptif. Et comme cette brebis peut-être, ben, il attend qu'on soit complètement épuisé spirituellement, pour pouvoir enfin nous saisir et nous montrer tout l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. N'en profitez pas, parce que des fois, il casse la patte avant. Faut pas oublier. Mais c'est dire la patience que Dieu a avec nous. À nous aussi d'avoir la patience avec les autres de la même manière. N'allez pas vous casser les pattes, hein, c'est pas l'idée ce matin. Mais des fois, il faut aussi avoir le temps, la patience, le temps de prier pour quelqu'un, pour qu'il devienne enfin réceptif. Il est dit dans Hébreux 12 que Jésus reprend celui qu'il aime. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il le frappe de la verge, tous ceux qu'il reconnaît pour son fils. Pauvre Seigneur, il ne pourra bientôt plus frapper de la verge en France, puisqu'il y a la loi qui va bientôt passer, hein, contre les fessés. Mais voilà l'amour du Père pour chacun d'entre nous. Il nous dirige, nous dit David, vers les eaux paisibles, ces endroits où on peut se désaltérer. Évidemment, c'est ses rendez-vous avec lui, sur l'église, mais peut-être nos rendez-vous personnels, nos cultes personnels. Et il nous amène pas n'importe quelle eau, tout simplement. Et vous savez l'importance de l'eau chez les brebis. Hein. Un berger écrivait, avant de penser aux sources mêmes, nous devons reconnaître le rôle de l'eau pour l'animal et savoir pourquoi elle est si essentielle à son bien-être. Le corps d'un animal, comme celui de la brebis, est composé d'environ 70% d'eau. imaginez. Elle sert à maintenir un métabolisme normal. Elle constitue une partie de chaque cellule et contribue aux fonctions normales de la vie. L'eau détermine la vitalité, la force et la vigueur de la brebis. Elle est indispensable à sa santé et à son bien-être général. Si l'approvisionnement en eau d'un animal vient à faire défaut, la déshydratation s'installe dans l'organisme. Elle peut entraîner de sérieux dommages. L'animal s'affaiblit et s'appauvrit. Tout animal ressent le manque d'eau par la sensation de soif. Elle indique le besoin du corps d'un approvisionnement en eau externe, extérieure à elle-même. Lorsque les brebis ont soif, elles ne prennent plus de repos et se mettent en quête de l'eau. Si elles ne sont pas menées vers des eaux pures et claires, elles finissent souvent par boire une eau polluée qui leur donne des parasites et des germes de maladies. On voit là toute l'importance de l'eau pour une brebis. Évidemment, cette eau dans la Bible, c'est la parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Le chrétien, il doit s'hydrater de la parole de Dieu. Autrement, il meurt. C'est tout simple. Autrement, il meurt. Si je ne prends pas le temps de lire, de prendre cette parole comme cette eau qui est tellement nécessaire et vitale pour notre vie, et surtout pour la vie spirituelle, à un moment, ma foi, tout doucement, se désintègre et je meurs. Oh, pas que je perde le salut, mais ma relation avec Dieu est morte, tout simplement. Et ne pas le faire régulièrement, c'est à un moment, comme ces brebis, aller chercher à boire ailleurs. Parce qu'on va aller boire dans le monde, on va aller boire dans les tentations, on va aller boire dans un tas de choses, et qui finalement, comme ces brebis, vont finir par nous intoxiquer. Elle est bonne, l'eau de la parole de Dieu, non? Pourquoi on ne la boit pas? Donc des bulles peut-être, pour qu'elles soient plus savoureuses, je ne sais pas, un peu de citron. Mais prenez le temps d'y réfléchir et hydratez-vous, parce que c'est tellement important. Il y a des gens qui lisent régulièrement leur Bible, qui ont une vraie relation avec Dieu, qui ont déjà du mal à avancer avec le Seigneur. Que dire de ceux qui ne le font pas? Forcément, dès que Satan arrive, boum, on tombe par terre, et la brebis, au lieu de se laisser sauver par le bon berger, ben, va tomber tout simplement dans le ravin. C'est bien dommage. Le bon repos de ce bon berger et la bonne direction ne viennent que de bons bergers. La question, c'est est-ce que nous le suivons vraiment? Je vous encourage, en tout cas, à le suivre. Troisième chose que David nous apprend, c'est que mon berger relève celui qui tombe et donne aussi cette bonne direction ensuite. Traduction littérale, il est dit « Il ranimera mon âme et me fera conduire dans les traces de ce qui est juste à cause de son nom. » Il ranimera mon âme, il me fera conduire dans les traces de ce qui est juste à cause de son nom à lui. Ce berger, il peut parfois casser les pattes, mais c'est quand même un berger qui a beaucoup de tendresse pour ses brebis et parfois, il devra relever ses brebis. Ça rappelle tout simplement la fragilité de ces animaux, mais aussi notre fragilité en tant qu'être humain. Quand une brebis était renversée, voilà ce qui se passait en fait. Cela se produit de cette manière. Une brebis lourde, grasse et à longue toison s'installe confortablement dans un petit creux du sol. Elle roule un peu sur elle-même, puis s'étire et s'allonge. Soudain, le centre de gravité du corps se déplace de telle sorte qu'elle se retrouve sur le dos, les pattes ne touchant plus le sol. Elle peut être prise de panique et se mettre à agiter les pattes. Ceci ne fait souvent qu'aggraver en fait les choses. Elle roule de plus en plus. Il lui est maintenant tout à fait impossible de se redresser. Pendant qu'elle se débat, ainsi des gaz commencent à se former dans sa panse. Ils tendent en augmentant à retarder et arrêter la circulation du sang dans les extrémités, spécialement dans les pattes. Si le temps est très chaud et ensoleillé, une brebis renversée peut mourir en quelques heures. S'il fait frais, nuageux et pluvieux, elle peut survivre quelques jours dans cette position. Mais bon, une brebis renversée, finalement, c'est la mort qui l'attend bien souvent, si le bon berger ne vient pas tout simplement la relever. Nous avons des péchés qui nous renversent, un orgueil, une non-obéissance peut-être à Dieu qui fait que des fois nous avons les pattes en l'air, si on peut utiliser cette image-là. Mais quand on a les pattes en l'air, il se passe des choses dans notre cœur aussi. On les minimise bien souvent. Mais le diable, lui, quand vous avez les pattes en l'air, lui va rajouter, pour qu'à un moment, vous n'ayez plus envie de retourner vers le Seigneur. Heureusement que le bon berger vient de temps en temps et fait attention, surtout, à ses brebis. Et quand il envoie une renversée, comme Jésus-Christ le fait dans notre vie, eh ben, il nous relève. Vous savez, le Seigneur sait qu'on est vulnérable. Il sait aussi qu'on est des proies faciles pour le diable. Il le sait, tout ça. Et là, il est là à l'affût tous les jours, et il nous observe. Et quand il le faudra, quand on cessera de se débattre, peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, à ce moment-là, il relèvera tout simplement cette brebis, son enfant. Et quand il nous relèvera, il nous fera du bien. Il ne nous fera pas le reproche C'est ça qui est formidable. Quand on tombe dans le péché, quand on tombe loin peut-être, le Seigneur veut juste nous relever. Il ne fait pas le reproche. Il veut juste me relever. La grande différence avec les hommes qui font d'abord les reproches et qui penseront bien plus tard à relever la personne. Mais le berger veille sur nos chutes quotidiennes. Dieu ne repousse pas. Il reste patient avec ses brebis, comme le berger certainement, et surtout avec ses brebis qui sont parfois renversées. Je pense qu'il prend du temps avec elles. Mais si... Il veut juste, pardon, les relever. Hein, et quelqu'un a parlé de restauration de cette brebis renversée, hein, surtout par rapport à cette partie, il restaure mon âme. Il disait, aussitôt que j'atteignais la brebis renversée, ma première action était de la relever. Je la roulais doucement de côté pour diminuer la pression des gaz dans sa panse. Ça se fait pas n'importe comment. Hein. Si elle avait été couchée longtemps sur le dos, je devais la maintenir sur ses pattes. La tenant contre moi, je lui frottais les membres pour animer la circulation. Ceci prenait un certain temps. Quand la brebis se remettait à marcher, elle trébuchait, chancelait et s'affaissait à nouveau. Pendant tout le temps où je m'occupais d'elle, je lui parlais doucement. C'est mignon, ce qu'il dit. « Quand apprendras-tu à te tenir sur tes pattes ?»« Je suis si heureux de t'avoir retrouvé à temps, coquine. » Je ne sais pas si les bergers parlent comme ça tout le temps à leur brebis, mais c'est mignon. Je continuais à lui parler, mêlant dans mon langage tendresse et réprimande, hein, c'est pas parce que Dieu nous relève qu'il ne nous dit pas aussi les choses comme elles sont, compassion et gronderie. Petit à petit, la brebis retrouvait son équilibre, elle pouvait se mettre à marcher avec assurance, bientôt elle s'éloignait pour rejoindre les autres, délivrée de sa peur et retrouvant une nouvelle chance de vie. Et tout ceci me revient au cœur lorsque je répète, il restaure mon âme, tout simplement. Le Seigneur veut restaurer notre âme, qu'on soit peut-être loin ou peut-être un peu moins loin, mais pour cela, il faut évidemment se laisser approcher de Dieu, confesser peut-être nos péchés, nos craintes, nos frayeurs, nos désobéissances. Et là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, oui, il montre peut-être ce qu'on n'a pas fait de bien, mais la première chose qu'il a envie de dire, c'est coquine. Il a envie de nous dire, je t'aime, et j'ai envie simplement que tu avances avec moi, et je suis là pour t'aider à te relever. Peut-être qu'on est, nous, aujourd'hui, une brebis renversée. La vie fait tellement de choses... Cherchez le secours dans votre bon berger, tout simplement. Confiez-vous dans le bon berger. Il ne vous fera jamais le reproche, quoi que vous ayez fait. Il veut simplement que vous approchiez de lui pour qu'il puisse travailler dans votre cœur et vous relever. Le berger veut nous conduire. Nous, on ne veut pas toujours. Et il veut me diriger vers ce qui est bon et juste. Et nous, on ne veut pas ce qui est bon et juste. Ou du moins, on va vers ce qui est bon et juste selon notre définition à nous. D'abord, il faut comprendre les habitudes des brebis aussi, hein. Je reviens toujours à ces brebis, hein, mais ça nous rappelle nous, tout simplement. Hein. Les brebis sont des créatures aux habitudes fortement ancrées. Si elles sont laissées à elles-mêmes, elles suivent les mêmes pistes jusqu'à les creuser d'ornières, broutent les mêmes herbages jusqu'à les épuiser, polluent leur propre terrain jusqu'à les corrompre par la maladie et les parasites. C'est intéressant. Hein. Plusieurs pâturages des plus réputés ont de la sorte subi une ruine définitive du fait que des propriétaires ignorants ont indifféremment, les ont laissés indifféremment brouter trop longtemps et n'ont pas su diriger leur troupeau. Si les brebis font ce qu'elles ont envie, qu'est-ce qu'elles font ? Elles détruisent tout. Elles se détruisent elles-mêmes, tout simplement, parce qu'une fois qu'il n'y a plus rien à manger, on ne mange plus, tout simplement. Voilà. L'homme livré à lui-même détruit tout sur son passage. Nous le voyons dans le monde, mais on le voit aussi des fois dans notre vie de chrétien. Peut-être pas à ce point-là, mais des fois, si. Des fois, si. Si on veut faire ce qu'on a envie, à un moment livré à moi-même, et Dieu le permet des fois, simplement pour qu'on se rende compte qu'on fait n'importe quoi et qu'on ne suit pas le Seigneur. Le chrétien aime beaucoup stagner dans sa vie spirituelle. Ça fait 20 ans que je suis chrétien, là je suis bien maintenant. Hein, là, je sais un petit peu... Je connais les quatre évangiles, je suis bien, ça me suffit. Voilà. C'est pas ce que Dieu veut, c'est pas ce que veut le bon berger. Rarement le chrétien veut avancer. Je vois rarement, si je me souviens, il y a un Chinois une fois quand j'étais à Reims, il venait de se convertir et il me disait « Je veux 4 études bibliques par semaine. » Les garçons, on va y aller doucement. Mais il avait soif. On en a fait une par semaine, c'était déjà suffisant pour lui parce que ça ne sert à rien de se remplir le cerveau. Mais est-ce qu'on a envie d'avancer comme lui ? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on a envie de grandir avec le Seigneur plutôt que de stagner ? C'est vrai que l'habitude, ça nous rassure. Hein. Quand les choses sont toujours un peu pareilles, c'est sympa, il n'y a pas de problème. Mon Dieu permettra des fois que les habitudes changent, justement pour qu'on se réveille. Mais le problème, c'est que l'habitude rassure, mais elle tue aussi le chrétien. Si je me satisfais de ce que j'ai aujourd'hui, vous allez mourir, tout simplement. Le chrétien, il avance sur une pente. C'est l'image que j'ai toujours dans ma tête. on marche sur une pente. À partir du moment où vous arrêtez de marcher, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous roulez en arrière. Mais vous stagnerez jamais. Jamais. Le Seigneur veut qu'on grandisse, qu'on avance avec lui, petit à petit. Mais ce qui est important, c'est que je suis disponible et que je laisse le Seigneur faire dans ma vie. Si les brebis choisissent par elles-mêmes ou paître, on a bien vu, ben, ces choix seront souvent charnels, demi-charnels, mais en tout cas, ils ne sont pas forcément bons et pas ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Dieu connaît, lui, les bons terrains. Et quand il nous conduit dans certains terrains, quand c'est vert, quand c'est beau, les petites pâquerettes, les papillons, on est très heureux. Merci Seigneur, tout va bien. Mais quand elle dit qu'on va traverser la vallée de l'ombre de la mort, ok Seigneur, attends, moi j'ai d'autres projets pour moi aujourd'hui, hein. On va faire autre chose. Et on est capable de fuir, hein, taillot, taillot. Mais le Seigneur va rattraper sa brebis et va la faire quand même traverser, que vous le vouliez ou non. Mais quand il nous fait traverser des mauvais moments, ce sont toujours des bons terrains pour chacun d'entre nous. Quand Dieu me reprend, c'est pour mon bien, c'est pour que je grandisse dans ma foi, que je le reconnaisse comme la majesté, comme on a vu tout à l'heure, comme celui qui peut absolument pour tout pour nous. C'est facile de dire « Dieu est mon berger, Dieu peut tout pour moi ». On le voit quand vous le vivez, tout simplement. C'est là où vous prouvez que c'est vrai, ces choses-là. C'est là où je le prouve, moi aussi. Hein. Et bien souvent, on sait que ces terrains sont bons, même s'ils sont difficiles, mais on ne les veut pas. Moi, j'ai mon terrain, il est très bien, je suis prêt même à mourir. Mais mon terrain, il est mieux que ce que tu veux me donner. On est vraiment têtu, parfois. Et il veut nous conduire vers ce qui est juste, c'est-à-dire vers un chemin qui est droit. Nos chemins humains sont souvent tortueux, dangereux, hein, pour nous-mêmes, et peut-être même pour les autres, et finalement ne sont pas très fructueux. Mais Dieu veut nous emmener vers un chemin droit et juste, c'est-à-dire selon la justice parfaite de Dieu, ce qui est bon pour nous, tout simplement. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Nous ne savons pas forcément ce qui est bon pour nous. Pourquoi nous disons et faisons autorité de ce que nous croyons être bon pour nous? C'est curieux quand même, on est tordu. Et on arrive à se mentir. Je sais que Dieu fait tout bien pour moi, mais je vais quand même accepter mon mensonge pour moi-même, parce que c'est trop dur, parce que si, et ça. Hein. Il veut m'emmener vers les chemins qui sont justes et parfaits. Et quand vous êtes sur ce chemin juste et parfait, ça ne peut que nous faire du bien. Alors je sais que les gens aiment bien se faire du bien, mais jamais comme Dieu veut nous faire du bien, hélas. Hein. Et ce chemin, évidemment, se trouve dans la parole de Dieu. Si je veux marcher droit dans sa justice, je suis désolé, on y revient toujours. Il faut boire beaucoup d'eau. Ce qui paraît, c'est bon pour le corps déjà, mais c'est encore plus excellent pour notre cœur, pour notre âme, que de s'hydrater dans la parole de Dieu. Et je veux marcher, je veux me laisser conduire dans ce chemin juste et droit, parce que, à cause de son nom, nous dit David, à cause de la réputation de son nom, à cause de la réputation de ce berger, le nom de l'Éternel, c'est une réputation qui est solide, hein, qui est immuable, qui a été démontré plus d'une fois dans la parole de Dieu au travers de toutes les histoires, de toutes les vies qu'il y a. Le nom de l'Éternel est absolument parfait. Et c'est, j'ai presque envie de dire, c'est un label qualité, puisqu'on cherche beaucoup de labels aujourd'hui. Hein. Un label qui a été éprouvé dans le temps, prouvé peut-être dans notre vie aussi, de temps en temps. Hein. Il y a des victoires. On est passé par les moments difficiles, et le Seigneur nous en a sortis, avec peut-être quelques plumes qui ont volé, mais on en est sortis, et on est toujours debout avec le Seigneur. Hein. Et ça prouve justement que Dieu le fera jusqu'au bout de notre vie, quoi qu'il arrive dans notre vie, le bon berger me reprend, me relève et me remet dans son troupeau, tout simplement. Le bon berger rassure, il me rassure parce qu'il assure une bonne direction. Le mauvais berger n'assure personne, et tout le monde peut faire ce qu'il a envie, mais le bon berger, il rassure parce qu'il me donne la bonne direction, et cette bonne direction, il n'y a que les brebis obéissantes qui peuvent la connaître et en jouir pleinement. Est-ce que j'ai envie d'être une brebis indocile, hein, envie de faire ce que j'ai envie, et de temps en temps, je vais obéir, parce que je veux vraiment obéir pleinement à mon bon berger. Dieu veut et peut nous conduire dans ce qui est juste. Il suffit juste d'accepter de suivre le bon berger. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Alors notre cœur, hein, en ce moment, doit se dire « Oh, j'ai pas envie, moi. Hein, chose dans ma vie qu'il faudrait que je règle peut-être pour vraiment suivre le bon berger. Ben, » faites-le, c'est l'occasion. Et suivez le bon berger. Pour terminer cette première partie, hein, cette période de soin, on va dire, du berger avec ses brebis, il faut comprendre que c'est nécessaire. Parce qu'on va partir dans les montagnes la semaine prochaine. Hein, vous mettrez vos chaussures de montagne pour l'occasion peut-être. Mais avant de partir dans la montagne, il faut prendre des forces. Hein. Vous n'allez jamais vous balader dans les Alpes sans bonnes chaussures, sans quelque chose à manger, etc., avec le ventre vide. Vous seriez fou. Mais c'est la même chose pour les brebis. Avant de partir en transhumance, elles sont soignées, protégées, choyées par le berger, qui sait qu'elles vont avoir besoin de tout cela. Sans se reposer en Jésus-Christ, comment est-ce que je peux marcher dans la bonne direction? Comment je peux être gardé des pièges? Comment je peux ne pas être dévoré par le lion rugissant? C'est impossible. Ou par mes propres pièges à moi, des fois. On a besoin des soins divins, parce que sinon, comment affronter les dangers de la vie? Comment affronter ces montagnes, des fois, qu'on a dans notre vie? Mais on y pense seulement quand on est dans la montagne, qu'il faut se laisser soigner, boire de l'eau, se laisser choyer par le Seigneur. Non, c'est bien avant que les choses arrivent qu'il faut le faire. Et c'est comme ça qu'on devient fort spirituellement avec le Seigneur. Le bon berger ne veut plus qu'on soit des brebis égarées. Il veut simplement qu'on se confie en lui, qu'on ait pleinement confiance en lui, il faut le connaître, mais qu'on se confie aussi dans la bonne direction qu'il nous donne, même si ça ne nous plaît pas des fois. Moi, mes directions ne me plaisent pas toujours, mais je sais qu'au bout, le Seigneur fait toujours de bonnes choses. À moi, évidemment, de suivre le berger. Laissons-nous soigner par le bon berger, pour une fois qu'on peut se faire cajoler. Hein. Pour une fois, quelqu'un nous veut du bien, au plus profond de notre âme. Pourquoi n'acceptons-nous pas les soins du bon berger? Acceptons ses chemins, acceptons sa justice, acceptons ses petites fessées de temps en temps, mais acceptons tout simplement de suivre le bon berger. La question que je vous pose simplement, c'est est-ce que l'Éternel est votre berger? Est-ce que l'Éternel est mon berger? Est-ce que je suis vraiment en train de le suivre aujourd'hui? Nous voulons prier. Seigneur, merci pour ce psaume qui est tellement connu, peut-être intellectuellement, peut-être très mal vécu par beaucoup, ou pas du tout, Seigneur. Et ce matin, tu nous rappelles que tu es notre berger, ce grand et merveilleux berger, tout-puissant, capable de tout, et qui veut tout simplement le meilleur pour ses brebis. Seigneur, nous devons confesser que nous sommes bien têtus comme brebis, bien souvent. Nous préférons nos chants à nous, nos directions à nous, mais merci de ce psaume qui nous rappelle qu'il est bien préférable de nous confier en toi, dans ta direction, Seigneur. Apprends-nous à te faire confiance, apprends-nous à accepter ces pattes cassées, apprends-nous à nous laisser relever si nous en avons besoin, apprends-nous à t'obéir tout simplement, parce que tu veux nous éviter le pire et tu veux tout simplement nous donner le meilleur. Fais que tu sois vraiment notre berger, chaque jour, chaque minute, dans toutes les circonstances, et tout cela pour ta gloire. En Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.